À l'heure où les Français sont ballottés entre discours alarmistes et propos laxistes sur l'intégration des immigrés, l'invité de la matinale, maire sans étiquette de Montfermeil, en Seine-Saint-Denis, agit depuis 20 ans pour, je le cite, « connaître, respecter et faire aimer la France ». Comment s'y prend-il? Quels sont ses combats? De passage à Toulouse pour donner une conférence, Xavier Lemoine est dans les studios de Radio Présence. Bonjour monsieur le maire.
Bonjour.
Les premières années de votre mandat ont été illustrées par des images assez marquantes de violences urbaines, voitures brûlées, petites délinquances. Mais 20 ans plus tard, la violence a diminué à Montfermeil. Quelles sont les actions que vous développez et que vous avez développées pour prévenir la délinquance et circonscrire la violence ?
Effectivement, vous vous rappelez des souvenirs, notamment celles des émeutes de 2005, puisqu'elles ont démarré sur la ville de Clichy-sous-Bois, qui est contiguë à celle de Montfermeil. Et ensuite, c'était sur les deux villes que les événements se sont déroulés. Et puis en 2006, il y a eu une recrudescence extrêmement forte de la délinquance qui m'avait fait prendre un certain nombre d'arrêtés suspendus par la justice à l'époque. Et ensuite, en 2008, la loi a permis aux maires d'en faire un peu plus en termes de sécurité. Mais au-delà de cela, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une des villes les plus sûres de Seine-Saint-Denis. C'est une des villes qui a, je dirais, fait d'énormes progrès sur le niveau scolaire de ses élèves. Alors, quelques recettes, je ne sais pas si ce sont des recettes. D'abord, la première des choses, c'est de pouvoir redonner dignité et fierté à nos populations par la qualité de l'urbanisme, de l'architecture et de l'espace public. J'ai vécu 15 ans sur cette ville. Les populations étaient encore dans des conditions de copropriété dégradées, de bidonvilles verticaux, on va dire. Et nous avons tenté, avec l'État et le département, la région, tout un tas de politiques. Aucune n'ont abouti. Dès lors que, à travers cette qualité de l'urbanisme, de l'architecture et de l'espace public, vous redonnez dignité et fierté, et que ce sont les institutions qui redonnent cela à nos populations, eh bien, elles nous sont quelque part reconnaissantes, redevables, et ont quelque chose à défendre.
Très concrètement, vous avez, pardonnez-moi de vous interrompre, quel a été par exemple un aménagement que vous avez fait pour redonner...
C'est plus qu'un aménagement, c'était une résidence de 1500 logements copropriétés. Sur ces 1500 logements, il en reste à ce jour 500 qui ont été totalement réhabilités. Ça veut dire qu'il y en a eu 1000 de démolis et 1000 de reconstruits. Reconstruits en petites résidences, 50 logements maximum, alors qu'avant c'était des grandes barres de 155 logements, avec un choix architectural plutôt classique, avec des beaux matériaux, la briquette, notamment, mais le bois, le zinc, et dans un style architectural qui raccordait ce quartier au reste de la ville, qui arrêtait de le stigmatiser, avec, je dirais, une résidentialisation, avec beaucoup d'espaces verts, avec des logements fonctionnels, et puis un espace public arboré, avec beaucoup de petits squares pour que chaque maman, du haut de sa fenêtre, puisse surveiller les enfants qui jouaient. Bon. Tout un aménagement, mais sérieusement pensé, qui, à un moment donné, apaise. Et ce sont exactement les mêmes populations qui, aujourd'hui, vivent, et vivaient il y a 20 ans, et qui me disent gentiment maintenant, oui, c'est beau, on se sent bien. Et c'est devenu même pour les autres Montfermeillois, ce quartier est devenu la référence architecturale. Monsieur le maire, si vous continuez à construire, vous construisez, mais... aussi beau qu'au Bosquet. Bon, voilà.
Et ces aménagements ont vraiment contribué à faire baisser la violence dans la ville ?
Alors, si on ne fait que cela, que l'urbain, on passe à côté du reste. Et donc, il faut immédiatement embrayer sur les politiques éducatives et sur les politiques culturelles. Pour moi, l'enjeu dans les quartiers, il n'est ni urbain, ni social, ni économique. C'est un peu antinomique avec ce que je viens de dire. Pour moi, l'enjeu, il est d'abord culturel. Comment voulez-vous demander à des personnes de nous aimer s'ils n'ont pas appris à nous connaître? Et qu'avons-nous fait comme effort pour nous faire connaître au regard de notre histoire, au regard de notre culture, de nos us, coutumes, de nos mœurs, de nos façons de faire? Enfin, voilà, la France dans sa diversité, mais la France quand même qui a une histoire et n'est pas un pays comme un autre. Chaque pays a sa personnalité comme chaque personne a la sienne. Donc, se faire connaître, eh bien, ça passe, je dirais, par des visites. Quand je vais visiter avec des mamans qui apprennent le français la ville de Chartres, bah, ça ne laisse pas indifférent. Oui. Quand on en voit plusieurs quarts de familles avec les enfants, avec les ados, au Puy du Fou en été, ça ne laisse personne indifférent.
Donc vous leur faites découvrir la France.
On essaie de leur faire découvrir la France. Ça, c'est faire connaître. Après, il y a le mot respecter. Moi, il y a trois sujets sur lesquels je ne transige pas. Il n'y a pas de débat possible. C'est la question de l'égale dignité entre l'homme et la femme. Ça, c'est un marqueur qu'on n'a pas le droit de discuter en France, pour moi. La question de la laïcité, entendue comme la distinction des deux ordres, non pas la séparation qui est une forme d'athéisme déguisé et qui est pour les musulmans un véritable scandale. Donc deuxième sujet. Le troisième sujet, c'est la question de la liberté de conscience. Et ici, quand j'essaie de m'expliquer rapidement, je dis si on n'est pas libre, on ne peut pas aimer. Il n'y a pas d'amour sans liberté. Bon, donc si... Donc les gens ils disent « Ah oui, tiens, je n'avais pas pensé qu'effectivement, si je ne suis pas libre, si je suis obligé d'aimer, c'est plus de l'amour.
Oui. »
Bon, voilà, donc la liberté de conscience, et après on peut aller plus loin. Donc ça, c'est ces trois sujets qu'on aborde, par exemple dans les cours de français, qu'on aborde avec nos jeunes, alors à travers des théâtres forums. Alors c'est, voilà, il n'y a pas un cours de laïcité, mais c'est à travers des biais détournés, pour sensibiliser ces populations qui viennent d'aires culturelles différentes, civilisationnelles différentes, que je connais, puisque pendant 10 ans, j'ai été marin dans la marine marchande. Donc je dirais, ce n'est pas des choses qui me font peur, bien au contraire, je les ai vues in situ. Voilà, et pour familiariser progressivement ces personnes à cela. Et de temps en temps, bah, il faut rappeler des règles, rappeler des choses. Et puis quand on le fait gentiment, et avec des fois un peu de fermeté, mais gentiment néanmoins, eh bien, les choses peuvent rentrer. Et puis après, aimer, ça ne dépend pas de moi, mais...
Mais vous avez donné les outils, peut-être.
Un petit Fioretti, c'est une maman qui apprenait le français, qui était là depuis 15 ans en France et qui visite la cathédrale de Chartres. Et en sortant, elle va voir sa formatrice de français qui dit, elle l'appelle par son prénom, Fatima, tu te rends compte? Ça fait 15 ans que j'habite en France. Je ne m'étais pas encore intéressé à la France. Et ben, cette visite, je ne sais pas ce qu'elle a produit, mais elle a produit un changement du regard.
Oui, un déclic.
Un déclic. Derrière le regard, ben, y a une intelligence, il y a un cœur, c'est une maman, il y a des enfants, il y a un papa, il y a une famille, il y a une communauté. Voilà. Et puisque maintenant, ça fait plus de 30 ans que je suis sur Montfermeil, que mon épouse Béatrice, pendant plus de 20 ans, a fait de l'alphabétisation sur la résidence des Bosquets, ben, on est très proche de certaines familles et on voit les trajectoires de ces familles qui, voilà, ont été accueillies, respectées dans ce qu'elles étaient, et en même temps, on leur a dit là où elles étaient et, là, et dans quel cadre elles vivaient, elles, leurs enfants, leurs petits-enfants. Et on voit ces familles, voilà, qui sont capables aujourd'hui, ben, toutes seules, de partir à Paris, de faire un musée avec les enfants... Voilà, qui gardent, je dirais, leurs origines, leur histoire, mais qui savent aussi apprécier, connaître, savourer ce que nous sommes. Et ça fait vraiment de très belles histoires et de très beaux contacts et de très belles cohabitations. C'est un peu plus même que de la cohabitation. Ça donne une ambiance, en tout cas, sur notre ville, qui ne laisse pas indifférent. En tout cas, je sais que les habitants y sont attachés et... Voilà.
Et apprécie ce nouvel air de vivre.
Je crois.
Vous, personnellement, Xavier Lemoine, à quels questionnements cruciaux, comme homme politique, êtes-vous confronté?
Alors, on a brièvement vu la question de l'accueil des populations étrangères et de l'immigration, qui est un sujet polémique, rapidement idéologique. Soit on considère uniquement le système, soit on considère uniquement les personnes. Il y a un double équilibre entre des phénomènes qu'il faut savoir maîtriser, mais en même temps des réalités personnelles qui sont là. Et moi, j'ai eu un texte que je connais presque par cœur, qui est tiré d'un petit fascicule, L'Église face au racisme, et qui décrit, je dirais, où se trouve le bien commun et dans un arbitrage constant entre les capacités d'accueil du pays et l'urgence du besoin des populations en question. Et donc ça fait quelque chose de très souple, qui n'est pas doctrinaire,
qui n'est pas figé non plus,
et qui en fonction des circonstances permet d'ajuster, où il est rappelé que la culture du pays d'accueil doit être respectée, mais où il est rappelé aussi qu'il y a un enrichissement possible et que dans la différence...
Chacun
peut s'apporter dès lors qu'on prend le temps qui est nécessaire et qu'on ne vient pas imposer des choses ou brutaliser des choses. C'est très sage et j'ai distribué ça à des dizaines d'exemplaires, mes préfets, mes commissaires, toutes les personnalités que je peux côtoyer en leur disant bah voilà, c'est de cela dont je me réclame et c'est ce que j'essaie de mettre en œuvre sur la ville. Donc essayez de comprendre quand je vous demande des subventions pour tel ou tel dossier, c'est pas un dossier forcément standard. Quand j'envoie des jeunes au Puy du Fou, je sais pas s'il y a beaucoup de maires qui envoient leurs jeunes au Puy du Fou et leur famille au Puy du Fou, je leur dis voilà, il y a ça derrière. Voilà, bon. Et donc, ça, c'est une question. Mais il y a d'autres questions, puisque je suis aussi président d'un conseil de surveillance d'un gros hôpital, le plus gros hôpital de Seine-Saint-Denis. On a 650 lits, 2300 salariés sur cet hôpital. Donc, on est confronté aux questions du début de la vie, la question de l'avortement, la question de l'euthanasie. Et j'ai eu, alors je ne rentrerai pas dans les détails, mais j'ai eu à poser des actes et à résister à certaines préconisations, injonctions qui nous étaient faites. Et j'ai dit que ce n'était pas possible, en tout cas, d'y répondre de la manière dont on me demandait de répondre. Donc j'ai juste dit, dès lors qu'il n'y a pas de délit d'entrave de ma part, je pense qu'il n'y a rien à me reprocher, mais ne me demandez pas non plus de faire du prosélytisme. Nous rendrons compte de ce qui se passe, mais on reste dans une forme de neutralité, puisque la loi ayant changé, les solutions alternatives ne n'ont plus le droit de citer à l'intérieur des établissements publics de santé. C'est un sujet qui mériterait développement parce qu'il est délicat et on ne peut pas en deux minutes le traiter, mais voilà, c'était un moment très très, très,
très
dur.
Voilà,
il y a eu également la question de la loi Taubira, puisque nous sommes officiers d'état civil. Quid sur sur l'attitude à avoir, donc un vis-à-vis des personnes, soit, et j'ai reçu toutes les personnes qui ont pu me solliciter sur la mairie, deux, quelles sont les convictions qui pouvaient animer certains de mes adjoints et moi-même, comment avec le préfet lui dire, écoutez, je ne souhaite pas qu'il y ait entrave à la loi puisqu'il y a un droit positif qui existe, mais il y a aussi la liberté de conscience qui existe, qui est dans notre constitution, qui était rappelée dans plusieurs textes, je dirais dans le corpus législatif de notre constitution. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai pris une délibération, j'ai perdu au tribunal administratif, j'ai perdu au Conseil d'État, je suis à la CEDH depuis quelques années. Ce n'est pas encore tranché, ce
qui
est plutôt, plutôt bon signe d'ailleurs. Rappeler avec une certaine fermeté, en prenant des risques, puisque je dirais, j'ai été poursuivi sur un chef d'inculpation qui pouvait me valoir 10 ans de prison et 75 000 euros d'amende. Donc, ce n'est pas des petits débats.
Ce n'est pas anodin.
Ce n'est pas anodin. Encore une fois, les choses se font en souplesse, en essayant d'expliquer. Et puis, si on s'expose à des désagréments, bien on le sait. Mais avant, on a discerné, avant, on s'est fait conseiller. En tout cas, ce n'est pas seul que je suis allé sur ces sujets-là. Je les ai d'abord approfondis pour bien les connaître, et puis un éclairement et un discernement moral pour être sûr d'être dans une position ajustée.
Voilà. Quel conseil vous donneriez à ceux qui souhaitent s'engager en politique ?
D'abord, la politique, ce n'est pas nécessairement avoir une écharpe autour du cou. Et je pense que chacun d'entre nous, dans la perfection de son devoir d'État, je dirais un bon maire, s'il a des mauvais boulangers dans sa ville, le pain, il sera mauvais. Il y a beau y avoir un bon maire, ça ne fait rien. Bon. Ce que je veux dire, c'est que attendre l'homme providentiel ou le maire merveilleux, le député merveilleux, le conseiller général régional merveilleux...
C'est illusoire.
Ou le sénateur merveilleux, on peut le souhaiter, pourquoi pas, mais chacun... Je dirais, dans ses engagements professionnels, familiaux, syndicaux, associatifs, sportifs, tout ce qui fait la vie sociale, la vie de la cité finalement, on fait de la politique. Et d'ailleurs, mes listes, comment je les constitue, je ne vais pas chercher dans les partis politiques, je regarde dans le monde associatif, dans le monde économique, dans le monde familial, telle personne qui est disponible, compétent, qui a le sens des autres, qui apporte à la collectivité. Donc d'abord, ce n'est pas forcément une écharpe autour du cou. Et si je n'avais pas d'association, si nous n'avions pas les maires d'association sur nos villes, on serait bien en peine avec nos services municipaux de faire quoi que ce soit. Bon, donc déjà ça. Alors, chacun a un rôle politique dans les engagements qu'il a. Voilà. Un bon journaliste, un bon technicien, je le dis, c'est extrêmement important. Deuxièmement... je crois qu'il faut se former. Là, les sujets que l'on a à traiter sont des sujets complexes. On ne peut pas les aborder par l'idéologie ou par oui, non, d'accord, pas d'accord.
Vous l'avez dit, vous documentez et vous demandez beaucoup de
plus
conseils.
Plus subtil que ça sur tous les sujets. La question de l'éducation, quand vous avez par exemple des enfants de 40 nationalités différentes avec des aires culturelles très différentes, les principes éducatifs qui en France sont de parfait bon sens peuvent produire de parfaites catastrophes. parce que c'est pas compris de la même manière, et même c'est compris à l'inverse de ce que nous-mêmes, la manière dont on le comprend. Bon, donc si on n'est pas passé, si on n'a pas eu des heures passionnées avec un ethnopsychiatre et qui vous explique que telle et telle culture, voilà comment les choses sont ressenties, se font, etc. Ben on fait, bon, donc il faut se former, voilà, la patte humaine, c'est pas des parpaings, quoi. Oui. Voilà. Donc chaque être est unique. Donc il faut se former parce que les sujets sont complexes et nous sommes dépositaires, eh bien, des difficultés et des problèmes, ben, des familles, des personnes, etc.
Un dernier conseil.
Et puis se faire dans une difficulté, ne jamais rester seul et se faire aider pour discerner à plusieurs et éclairer la situation.
Et rester libre de ses choix.
Et rester libre. Alors, effectivement, ça, on pourrait parler sur l'engagement des partis politiques, mais rester libre, c'est la plus grande chose qu'il faut préserver lorsqu'on prend un mandat.
Merci beaucoup, Xavier Lehmann.
Merci à vous, merci de votre invitation.